Rudolsteiner, mythe et mystère égyptien. Cinquième conférence faite à Leipzig le 7 septembre 1908. Nous avons essayé jusqu'ici de nous représenter les rapports qui existent entre l'évolution de la Terre et celle de l'homme, afin de comprendre comment le passé de la Terre et les événements de son évolution se reflète dans les différentes civilisations post-atlantéennes. Nous avons décrit de ce point de vue les expériences profondes du disciple des Rishis, et nous avons vu que ces expériences intérieures du néophyte représentaient, sous forme d'images spirituelles vues par la clairvoyance, les événements qui se sont passés sur notre Terre, lorsque celle-ci renfermait encore le soleil et la lune. Nous avons vu aussi quel haut degré d'initiation le néophyte indien devait atteindre pour arriver à se former une telle image du monde, une image qui est une répétition de ce qui s'est déroulé dans un passé très reculé. Nous avons vu également ce qu'avaient ressenti les Grecs lorsque, pendant la campagne d'Alexandre, ils prirent contact avec les expériences des disciples indiens, dans l'âme desquels s'élevait l'image de la force divine, spirituelle, créatrice, qui commençait à s'exprimer dans le brouillard originel, quand le soleil, la lune et la terre étaient encore unis. Nous avons tenté de voir cette image du Brahman des Indiens, que les Grecs nommèrent Héraclès, comme une répétition intérieure d'événements passés bien réels. Nous avons vu déjà que les périodes successives d'évolution de la Terre se reflétèrent dans les civilisations perses et égyptiennes. Aux initiés perses apparut sous forme de tableau ce qui s'est passé pendant la deuxième époque, lorsque le Soleil se sépara de la Terre. Et ce qui se produisit à la séparation de la Lune devint conception du monde et principe d'initiation chez les Égyptiens, les Chaldéens, les Babyloniens, les Assyriens. Pour pouvoir observer avec précision le contenu de l'âme de l'ancien Égyptien, car c'est ce qui nous importe avant tout, nous ne considérerons l'initiation perse que comme un stade préparatoire. Il faut voir plus en détail ce qui se passa sur la Terre au moment où le Soleil et la Lune se séparèrent d'elle. Nous allons esquisser l'image de la Terre qui se forma progressivement quand le Soleil et plus tard la Lune partirent. Nous ferons abstraction des grands événements cosmiques et n'étudierons que ce qui s'est passé sur la Terre même. Si nous reportons notre regard sur la Terre en son état premier, lorsqu'elle était encore unie au Soleil et à la Lune, nous n'y retrouvons pas nos animaux, nos plantes et encore moins nos minéraux. À l'origine, la Terre n'était formée que par l'homme, n'était composée de rien d'autre que de germes humains. Il est vrai que sur l'ancien Soleil et sur l'ancienne Lune avaient été déposés les germes des plantes et des animaux, que ceci aussi existait dans la terre primitive, mais c'était encore des germes endormis qui ne semblaient pas pouvoir jamais éclore. Quand le soleil se mit en mouvement, alors seulement les semences d'où devaient sortir plus tard les animaux germèrent. Quand le soleil se fut complètement séparé de la terre, la laissant seule avec la lune, alors germèrent les semences qui devaient donner plus tard les plantes. Lorsque la lune commença à se retirer de la terre, il se forma peu à peu les germes des minéraux. Voilà ce que nous allons retenir. Regardons maintenant la terre elle-même, lorsqu'elle contenait encore le soleil et la lune. Elle n'était qu'une sorte de nébuleuse éthérique d'une immense étendue, renfermant les êtres humains qui s'animaient, et les germes endormis des autres êtres. Deux points. Les animaux, les plantes et les minéraux. Aucun œil humain n'eût pu percevoir ces êtres, parce que l'homme n'existait encore qu'à l'état de germe. Il n'avait donc point d'yeux pour voir. C'est pourquoi ils ne peuvent devenir visibles que rétrospectivement pour le clairvoyant. Cette description suppose un observateur imaginaire situé en un point de l'espace cosmique. Sur l'ancien Saturne également, un œil physique n'aurait rien pu voir. En ce temps-là, la Terre, en sa forme première, n'était qu'un brouillard vaporeux, dont seule la chaleur était perceptible. Au sein de cette masse, de ce brouillard éthérique originel, se forma peu à peu une sphère vaporeuse et lumineuse, qu'on aurait déjà pu voir s'il avait existé à cette époque des êtres pourvus d'yeux. Et si on avait pu y pénétrer, doué d'une sorte de toucher ou de sens de la chaleur, on aurait eu l'impression d'un espace chaud, un peu comme la sensation que donne l'intérieur d'un four. Cette masse nébuleuse devint rapidement lumineuse, et elle portait en elle tous les germes dont nous venons de parler. Il ne faut pas commettre l'erreur de croire qu'il s'agit là d'un brouillard, d'une nuée comme ceux que nous voyons aujourd'hui. Toutes les substances qui sont maintenant liquides ou solides s'y trouvaient alors dissoutes. Tous les métaux, tous les minéraux, tout était sous forme de vapeur. Une vapeur transparente, lumineuse, un brouillard pénétré de chaleur et de lumière. Essayez de vous représenter que vous baignez là-dedans. Le brouillard éthérique était devenu un gaz lumineux. Celui-ci devint de plus en plus clair, et c'est la condensation progressive des gaz qui augmentait la lumière, de sorte qu'à un moment, ce brouillard prit l'apparence d'un grand soleil qui rayonnait dans l'espace cosmique. Cela arriva réellement au moment où la Terre contenait encore le Soleil, où elle était toute diaphane et où elle rayonnait sa lumière dans l'univers. Cette lumière permit non seulement à l'homme de vivre sur la Terre sous la forme ébauchée originelle qu'il avait alors, mais aussi aux autres êtres supérieurs qui, sans avoir un corps physique, sont liés à l'évolution de l'homme, les anges, les archanges, les archées, etc. Ceux-ci n'étaient pas seuls. Dans cette plénitude de lumière vivaient encore des êtres plus élevés qu'eux, les puissances ou exousiaï ou esprits de la forme, les vertus ou dynamis ou esprits du mouvement, les dominations ou kyriotétès ou esprits de la sagesse, et ce que l'on appelle les trônes ou esprits de la volonté. Enfin, moins étroitement unis à cette sphère lumineuse, se détachant d'elle de plus en plus, les chérubins et les séraphins. La terre était un corps céleste habité par toute une hiérarchie d'êtres sublimes plus ou moins élevés. Et cette lumière qu'elle émettait dans le monde, dont tout son corps était pénétré, ce n'était pas seulement de la lumière, c'était aussi ce qui devait devenir plus tard l'objet de la mission terrestre. C'était la force de l'amour. L'amour constituait la partie essentielle de cette lumière. Il faut donc que nous nous représentions que ce n'est pas seulement la lumière physique qui rayonne, mais que cette lumière est animée, imprégnée d'esprit par la force de l'amour. C'est une chose difficile à imaginer pour un esprit moderne. N'y a-t-il pas aujourd'hui des gens qui décrivent le soleil comme une simple boule de gaz d'où s'échappe la lumière? C'est la seule représentation toute matérielle que l'on se fait aujourd'hui du soleil, excepté bien entendu chez les occultistes. Celui qui lit de nos jours une description du soleil telle qu'on la trouve dans les livres courants, ces livres qui sont la nourriture spirituelle d'une multitude de gens, n'a pas appris à connaître la nature véritable du soleil. Décrire le soleil ainsi équivaut à prendre le cadavre pour l'essence de l'être humain. Cette dernière affirmation n'est pas plus vraie que les données de l'astrophysique au sujet du soleil. Celui qui ne voit que le cadavre ignore ce qui est essentiel dans l'homme. De même, le physicien qui décrit le soleil ne le voit pas réellement, lorsqu'il croit en avoir trouvé les composantes par l'analyse spectrale. Ce qu'il décrit n'est que le corps extérieur du Soleil. Chaque rayon de Soleil émet vers tous les êtres terrestres la force d'entité supérieure qui habite le Soleil, et avec la lumière du rayonnement descend vers nous la force de l'amour, cette même force qui, sur la terre, rayonne d'un cœur à l'autre, d'un homme à l'autre. Le Soleil ne peut pas n'envoyer à la terre qu'une lumière physique. Cette lumière contient ce qui constitue aussi le sentiment d'amour le plus ardent, le plus intense. Avec elle se déversent sur la terre les forces des trônes, des séraphins, des chérubins et de toute la hiérarchie des entités supérieures qui résident dans le Soleil et qui n'ont pas besoin d'autre corps que de la lumière. Tout ce qui se trouve aujourd'hui sur le Soleil a été autrefois uni à la terre. C'est pourquoi tous ces êtres le furent aussi et ils sont encore liés aujourd'hui à son évolution. N'oublions pas que l'homme, qui était autrefois au dernier degré de l'échelle des êtres supérieurs, existait déjà en ce temps-là, à l'état de germe, enfant nouveau-né de la terre, porté et protégé par ces hautes entités vivant en leur sein. L'homme, qui vivait à cette époque, parce qu'il vivait encore dans le sein des entités divines, devait avoir un corps beaucoup plus subtil. La conscience clairvoyante permet de percevoir que son corps n'était qu'une fine forme vaporeuse, un corps de gaz ou d'air, un corps tout pénétré, tout rayonnant de lumière intérieure. Imaginons une nuée de forme régulière, un peu comme un calice élargi vers le haut, et voyons ce calice tout pénétré de lumière. Et nous aurons l'homme d'autrefois, qui commençait à cette époque à acquérir une conscience vague, telle qu'en ont les plantes aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que les hommes étaient à cette époque ce que sont les plantes aujourd'hui. Ils étaient comme de légères nuées pénétrées de lumière et de chaleur en forme de calice. Aucun contour fixe ne les séparait du reste de la masse terrestre. Telle était la forme humaine autrefois, un corps physique de lumière, participant encore aux forces de la lumière. Grâce à cette finesse du corps, non seulement le corps éthérique, le corps astral et les prémices du jeu purent s'introduire en l'homme au début de son évolution, mais aussi les hautes entités spirituelles unies à la terre. À cette époque-là, l'homme plongeait encore, comme par des racines, dans le monde des entités divines, et celles-ci le pénétraient. Il est bien difficile de décrire la magnificence de la terre et de donner une idée de ce que fut cette époque. Il faut se représenter la terre comme une boule diaphane, entourée de nuages rayonnants de lumière, donnant naissance à de magnifiques jeux de couleurs. Si on avait pu étendre vers cette terre une main sensible, on aurait perçu des manifestations de chaleur. Des masses lumineuses et chaudes ondulaient dans l'espace, et dans ces masses se trouvaient tous les êtres humains d'aujourd'hui, enrobés et bercés dans le sein des entités spirituelles. Celles-ci émettaient de mille façons grandioses vers le dehors la lumière rayonnante. Au dehors, l'univers terrestre en sa variété immense. Au dedans, l'homme baignant dans la lumière, uni aux entités divines et spirituelles, émanant d'elles, et rayonnant des flots de lumière dans la sphère lumineuse extérieure. L'homme était attaché au sein lumineux de notre terre, comme par un cordon ombilical issu de la divinité. Dans le sein cosmique du monde vivait l'homme, cette plante lumineuse, se sentant unie au manteau de lumière de la terre. Sous cette subtile forme de plante vaporeuse, l'homme était porté et protégé par notre mère la terre, attaché encore à son cordon ombilical. Comme aujourd'hui, sous une forme plus matérielle, l'embryon de l'enfant est porté et protégé dans le corps maternel. Ainsi reposait autrefois, dans des temps très reculés, l'embryon de l'homme dans le corps terrestre. Voilà comment vivait l'homme en ces époques reculées de la terre. Puis le soleil commença à se détacher, emmenant avec lui les substances les plus fines. Il y eut un temps où les hautes entités solaires abandonnèrent les hommes, où tout ce qui constitue aujourd'hui le soleil quitta notre terre, lui laissant les substances les moins spirituelles. En même temps que le soleil se séparait, la vapeur terrestre se condensa en eau, et l'on eut, au lieu d'une terre nébuleuse, une sphère terrestre liquide. Au milieu se trouvaient les eaux primitives, mais non entourées d'air. Lentement, les eaux se transformèrent en brouillard dense, épais, qui devinrent de plus en plus fins. La terre de cette époque est donc une terre liquide. Elle contient des substances molles, entourées de brouillard, qui s'allègent de plus en plus jusqu'aux sphères supérieures, où ils ont la forme de vapeurs très fines. C'est ainsi que se présente à nos yeux notre terre en ce temps. Elle s'était transformée, et les hommes durent plonger leur forme gazeuse, lumineuse, dans ces eaux troubles, si incarnées sous forme de masse liquide au sein de l'eau, comme il l'avait été auparavant des formes aériennes au sein de l'air. L'homme devint une forme liquide, mais pas tout entier. Jamais l'homme n'était plongé tout entier dans l'eau. C'est là un moment important de l'évolution. Nous venons de dire que la terre était entièrement liquide en son milieu et que l'homme n'était qu'en partie un être liquide. Il atteignait l'enveloppe de vapeur, de sorte qu'il était à demi liquide et à demi gazeux. En dessous, dans l'eau, l'homme n'aurait jamais pu recevoir les forces du soleil. La masse liquide était si dense que la lumière du soleil ne pouvait la traverser. Par contre, elle pouvait pénétrer un peu le gaz, de sorte que l'homme vivait en partie dans l'eau sombre, privée de lumière, et en partie dans la vapeur baignée de cette lumière. Quelque chose cependant était resté dans la masse liquide que nous allons décrire maintenant. Au commencement, la terre n'était pas seulement lumineuse, rayonnante, elle était aussi sonore, et le son lui était resté. Lorsque la lumière l'abandonna, que l'eau devint sombre, elle resta intérieurement pénétrée par le son. Et c'est le son justement qui donna à l'eau sa forme, comme on peut l'observer d'ailleurs par une expérience de physique bien connue. Le son est une force formatrice, il répartit et ordonne les parties d'un tout. Et c'est cette force qui a formé dans l'eau le corps de l'homme. C'est la force du son qui était restée dans la terre. Le son qui résonne à travers la terre a donné naissance à la forme humaine. La lumière ne pouvait pénétrer que jusqu'à cette partie de l'homme qui dépassait la masse liquide. En bas, un corps liquide, en haut, un corps gazeux, caressé par la lumière extérieure, à travers laquelle lui venaient les êtres qui s'étaient éloignés avec le soleil. Auparavant, lorsque le soleil était encore uni à la terre, l'homme se sentait porté par eux. Désormais, ils envoyaient leur lumière rayonnante vers lui, le pénétraient de leur force. Mais n'oublions pas qu'après le départ du soleil, des forces étaient restées unies à la terre, qui devaient se séparer d'elle, deux points, les forces de la lune. À cette époque donc, au moment où le soleil venait de se séparer de la terre, la forme humaine, semblable à un végétal, dut se plonger dans le corps physique liquide de la terre. La forme qu'il prit alors, nous la retrouvons dégénérée, fixée, dans les poissons. Regardons l'eau peuplée de poissons. Ces poissons sont les restes décadents des êtres humains d'autrefois. Imaginons un être semblable à un poisson d'or, aux formes extraordinaires de plantes, extrêmement mobile, mais plein de nostalgie, parce que la lumière avait été enlevée à l'eau. La lumière n'était plus là, et son absence provoqua une très profonde nostalgie. Il y eut un instant dans l'évolution de la Terre où le Soleil ne s'en était pas encore tout à fait séparé. on pouvait voir la forme humaine encore baignée de lumière, la partie supérieure se trouvant encore au stade solaire, la partie inférieure prenant déjà la forme qui s'est fixée dans celle des poissons. Comme la moitié de la forme humaine vivait dans l'ombre, elle était animée d'instincts très bas, car dans cette partie résidaient les forces de la lune. Sans être encore devenue la lave pétrifiée de la lune actuelle, elle était animée par des forces obscures, noires. Seules les parties les plus mauvaises de l'astral pouvaient y plonger. Mais en haut, la tête, pour ainsi dire, était une forme vaporeuse pénétrée d'une lumière venue de l'extérieur, qui lui donnait sa forme, de sorte que l'homme était composé d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. Nageant et planant à la fois, il se déplaçait dans cette atmosphère vaporeuse. L'atmosphère dense de la Terre n'était pas encore faite d'air, elle était constituée par de la vapeur, non pas par de l'air qu'aurait pu traverser le Soleil. La chaleur pouvait traverser cette atmosphère, mais la lumière, non. Le rayon de Soleil ne pouvait caresser que la surface de la Terre. L'océan terrestre restait sombre. Dans cet océan se trouvaient contenues les forces qui, formant la Lune, se séparèrent par la suite de la Terre. En même temps que les forces de la lumière, les dieux entraient dans la Terre. Nous avons donc, en dessous, le manteau liquide, abandonné par les dieux, pénétré seulement de la force du son, et à la périphérie, la vapeur dans laquelle rayonnaient les forces du soleil. Si bien que l'homme, avec la partie de son corps qui dépassait la surface liquide, était encore citoyen de ce monde qui descendait vers lui sous forme de lumière et d'amour spirituel. Pourquoi le sombre noyau liquide de la terre était-il pénétré par le monde des sons? Parce que l'un des hauts esprits du soleil était resté en arrière et avait lié sa destinée à celle de la terre. C'est l'esprit que nous connaissons sous le nom de Yahvé ou Jéhovah. Seul, il resta avec la terre. Il se sacrifia, et c'est son être intérieur qui pénétra de sonorité la terre haut pour la modeler. Mais comme les forces les plus mauvaises, les plus terribles, étaient restées mêlées à la terre liquide, la partie supérieure et vaporeuse de l'homme descendit de plus en plus. Et, peu à peu, la forme végétale se transforma en une sorte d'amphibien. Cette forme, qui dans l'échelle des êtres est bien inférieure à ce que devint l'humanité par la suite, c'est le dragon, le serpent, qu'évoquent les légendes et les mythes. Et l'autre partie de l'homme, l'habitant des régions lumineuses, est représentée par un être qui ne déchut point, qui combat la nature inférieure. Elle est représentée par exemple sous les traits de Michael, vainqueur du dragon, ou de Saint-Georges. Siegfried représente un autre aspect de cette lutte avec le dragon, de cette dualité que présentait alors la forme humaine. La chaleur pénétra la partie supérieure de la terre, et en même temps la partie supérieure de l'homme physique, et elle forma une sorte de dragon de feu. Mais au-dessus s'élevait le corps éthérique, dans lequel était conservée la force du soleil. Nous avons ainsi une forme que l'Ancien Testament a représentée, à juste titre, sous l'aspect du serpent tentateur, qui est, lui aussi, un amphibien, un batracien. Le moment approchait où les forces les plus basses allaient être expulsées de la terre. Des catastrophes gigantesques la bouleversèrent, et les formations basaltiques actuelles apparaissent à l'occultiste comme les restes des forces purificatrices qui secouèrent le corps de la terre lorsque la lune s'en sépara. C'est aussi le moment où la partie centrale et liquide de la terre s'épaissit de plus en plus, et où se forma peu à peu le noyau minéral solide. D'une part, la terre se condensa en perdant la lune. D'autre part, les parties supérieures de son atmosphère abandonnèrent aux parties inférieures leurs substances les plus lourdes, les moins fines, et en haut se forma peu à peu quelque chose qui devint semblable à notre air, bien qu'étant encore chargé d'eau. Un noyau solide, entouré d'eau de toutes parts, se forma peu à peu au centre de la Terre. Le brouillard de la périphérie demeura d'abord impénétrable aux rayons du soleil, mais, à mesure que certaines substances se déposèrent, il devint de plus en plus léger. Beaucoup plus tard, il se transforma en air, et, peu à peu, les rayons du soleil, qui ne pouvaient pas même atteindre la Terre, purent traverser l'atmosphère. Nous en arrivons à une phase de l'évolution que nous allons essayer de bien nous représenter. Auparavant, l'homme plongeait à demi dans l'eau, émergeait à demi dans le brouillard. Au moment où la Terre devint plus dense, l'homme liquide acquit la possibilité de rendre sa forme plus dure, d'avoir un système osseux. Il se durcit intérieurement. Ainsi, la partie supérieure de l'être humain se transforma-t-elle, de façon à s'adapter à cette situation nouvelle. Elle acquit une nouvelle faculté qu'elle n'avait point auparavant, celle de respirer l'air. Nous trouvons à cette époque une première ébauche des poumons. La partie supérieure de l'homme était exposée autrefois à la lumière, mais celle-ci ne pouvait pas pénétrer plus avant. Désormais, l'homme retrouve dans sa conscience obscure l'impression de la lumière. Ce sont des forces divines qui sont déversées en lui, qui rayonnent vers lui. À cette époque de transition, il a l'impression que ce rayonnement se divise en deux parties. L'air, le souffle de l'air qui pénètre son corps, et la lumière qui continue d'arriver jusqu'à lui. Désormais, l'air le pénètre. Et l'homme, qui sentait cela, se disait « La force que je sentais auparavant au-dessus de moi me donnait ce dont j'ai besoin maintenant pour respirer. La lumière m'a tenu lieu de respiration. Ce qui pénétrait dorénavant en lui, il le ressentait comme deux frères. La lumière et l'air étaient pour lui deux frères. C'était devenu pour lui une double réalité, lumière et air. Le souffle de l'air terrestre qui pénétra en l'homme lui annonça en même temps qu'il lui faudrait apprendre à ressentir quelque chose de tout nouveau. Tant que seule la lumière avait existé, l'homme n'avait pas connu la naissance et la mort. Autrefois, lorsqu'il n'était encore qu'une nuée diaphane, il se transformait, un peu comme on change de vêtements. Il n'avait pas l'impression de naître ni de mourir. Il se sentait éternel. La naissance et la mort n'étaient pour lui que des changements parmi les autres. Avec le premier souffle d'air, entra en lui la conscience de la naissance et de la mort. L'air, le souffle qui s'est séparé de son frère, le rayon de lumière, telles étaient les impressions de l'homme autrefois, qui a séparé les êtres unis auparavant à la lumière. Il m'a apporté la mort. Quel est donc cet être qui a effacé, tué en l'homme cette conscience qui s'exprimait ainsi? Ma forme est sombre, mais je suis uni à l'être éternel. C'est le souffle d'air qui pénétra en l'homme. Typhon. Typhon veut dire souffle d'air. L'âme égyptienne, revivant ce qui s'était passé autrefois, la séparation du rayon commun des origines en rayon de lumière et en souffle d'air, représente symboliquement cet événement cosmique par l'image du meurtre d'Osiris par Typhon, ou Seth, le souffle du vent. C'est le grand événement cosmique que cache le mythe égyptien d'Osiris tué par Typhon. Pour l'Égyptien, le dieu qui venait du soleil et vivait d'abord en paix avec son frère, c'est Osiris. Typhon est l'air que nous respirons, qui a fait de l'homme un être mortel. C'est là un des exemples les plus frappants de la façon dont les faits de l'évolution du monde se répètent dans la connaissance intérieure des hommes. Ainsi s'est reflétée l'histoire de la triade soleil, lune, terre. Tout cela était enseigné aux néophytes égyptiens en images d'une grande profondeur, au contenu dépourvu de tout arbitraire.